Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de la rédaction qui est consacré au système scolaire à travers le monde. Et pour ce faire, nous recevons l'association École du Monde, acteur en éducation, qui est fondée par Isabelle Servant. Bonjour Isabelle.
Bonjour Claire.
Isabelle Servant qui vient depuis un petit moment pour nous faire des comptes rendus de ces cafés pédagogiques qui se déroulent tous les mois sur différents systèmes scolaires à travers le monde. Nous avons d'autres invités également, Xavier Frenette. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Vous êtes originaire du Canada, vous êtes travailleur autonome et concepteur de sites internet au oui. Québec, et vous êtes de passage en vacances par chez nous.
Exactement.
Et vous nous faites le plaisir de venir nous voir. Sarah Jackson également, étudiante en sociologie à Montpellier, ça fait 3 ans que vous êtes en France. Vous êtes native américaine, vous avez suivi toute votre scolarité aux États-Unis.
Voilà.
Si je ne me trompe pas. Alors pour commencer, je me tourne vers Isabelle. Isabelle, nous allons aujourd'hui donc parler du système scolaire en Amérique du Nord. Puisque nous avons fait l'Amérique du Sud la dernière fois, nous nous attaquons au Nord ce coup-ci. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les infos générales au niveau de ces pays?
Alors, yes, I can. On va essayer d'aborder le sujet d'Amérique du Nord. Donc, je pense qu'on va déjà les replacer dans le contexte des immenses pays, hein, les États-Unis, première puissance mondiale. 18 fois la France, tous les deux, Canada, États-Unis, donc des pays immenses. Et il faut savoir, je ne le savais pas, 35 millions d'habitants simplement au Canada.
Ça fait la
moitié de la France pour la surface, donc essentiellement centrée. C'est important de le comprendre dans cette immensité, parce que ça va avoir un impact sur le système scolaire, évidemment.
Et c'est pour ça qu'ils ont la chance aussi de pouvoir gambader dans des forêts, ce que nous, on ne peut pas faire ici.
Et ouais, avec des cours, justement, tout à l'heure, Xavier nous en parlera peut-être, il avait un cours tout par trimestre qui était de randonnée, en fait. Son cours, c'était les cours de randonnée. N'est-ce pas, pas magnifique?
C'est superbe. Ici, si on fait une randonnée, c'est 5 km à l'extérieur de Montpellier, on tombe dans une autre ville.
Donc là, c'était le cours qu'il avait choisi au secondaire. Donc voilà, deux immenses pays à replacer géographiquement, 315 millions d'habitants pour les États-Unis. Des pays qui sont divisés, on le sait, en États et en territoires et en provinces pour le Canada. Donc États pour les États-Unis, provinces et territoires pour le Canada. Et en fait, ce sont des systèmes scolaires qui sont décentralisés. Donc déjà, c'était à poser, le système scolaire est gouverné par l'État ou par la province et indépendant avec des adaptations territoriales. Donc, c'est intéressant. Et j'arrive de suite au vif du sujet sur la performance scolaire de ces pays-là. Comme ça, on pose le contexte d'emblée. Est-ce qu'il marche bien? Le Canada, en fait, a de très, très bons résultats scolaires. On a parlé de cette fameuse enquête PISA qui évalue les enfants de 15 ans dans 3 matières. En fait, il faut savoir qu'en 2009, il y avait 65 pays qui étaient évalués. En fait, on en a... Le Canada est dans les 10 premiers sur les 3 catégories. Donc, extrêmement bien placé par rapport à la France qui se passait entre la 20e et 30e place. Donc voilà, on va peut-être approfondir ce qu'il en est au niveau du Canada. Au niveau des États-Unis, juste pour le replacer, on considère souvent que les États-Unis ne sont pas forcément très très bons.
Effectivement, c'est l'image qu'on voilà, a. C'est jalousie ou réalité, je ne sais pas.
Donc de cette réalité, savoir ce qu'il en est. En fait, il faut savoir qu'ils ont des résultats à peu près similaires aux nôtres. Donc on s'enorgueille souvent d'avoir de très bons résultats en France. Eh bien les États-Unis, sur cette enquête PISA en 2009, en fait, nous devancent dans deux domaines, la lecture et les sciences, et sont moins bons que nous en mathématiques. Donc, on a à peu près des résultats similaires. Voilà. Donc, on va pouvoir creuser maintenant et aborder le vif du sujet et ce à quoi sert l'école. Et en fait, l'école dans ces deux pays, et on va demander de suite à nos invités ce qu'ils en pensent, ça sert à s'épanouir. Ça sert avant tout à se trouver, à valoriser ses talents et ses potentiels, à être autonome et responsable et à s'explorer.
Donc, toujours le bien-être qui est au centre de l'éducation.
Le bien-être, l'épanouissement et la découverte de soi et la responsabilisation est au centre de ces systèmes scolaires. Alors, on va poser de suite la question à nos invités pour savoir à quoi ça sert l'école dans leur pays, ce qu'ils en pensent.
Alors, on va peut-être commencer par le Canada, Xavier.
Oui, c'est vrai qu'au Canada, l'école est beaucoup orientée sur une formation pour la vie, si je peux dire. Donc, évidemment, il y a une formation académique qui prend bien sûr beaucoup de place, mais il y a beaucoup de cours, beaucoup d'activités durant les périodes de cours qui sont ciblées à travailler, beaucoup de travail en équipe, beaucoup de discussions en classe, beaucoup d'exposés oraux pour bien apprendre à s'exprimer en classe. Beaucoup de cours aussi orientés sur l'acceptation de la diversité, bien connaître les autres cultures, les autres religions, quelles sont les différences entre les gens. Beaucoup aussi d'activités que je pourrais dire extra-académiques, beaucoup d'art, beaucoup de sport, beaucoup, on va sans doute en parler tantôt, mais des activités qui parfois peuvent sembler très, très loin de la formation scolaire, mais qui apporte des valeurs.
Qui enrichissent tout de même l'élève, une ouverture sur la vie tout court. C'est une éducation presque humaniste, hein, finalement, on touche un petit peu à tout.
Oui.
On ouvre l'enfant à vraiment se diriger vers tous les domaines sans restriction particulière.
Exactement, une formation pour vraiment devenir une personne qui va bien fonctionner en société, mais qui évidemment va être capable d'avoir un bon bagage de connaissances, mais aussi d'autres valeurs, d'autres capacités et de bien performer un peu dans plusieurs aspects.
Sarah, peut-être un petit mot sur cette vision globale de ce système aux États-Unis.
Ouais, c'est très similaire. Justement, j'ai parlé lors de la conférence, j'ai parlé de ce travail en groupe aussi et de la présentation à l'oral, qui est vraiment très très valorisée. Dès la maternelle, en fait, on commence à faire des présentations devant la classe, on amène un objet de chez soi qui représente quelque chose qui est important, et puis on doit le présenter, voilà, expliquer pourquoi c'est important. Et de ce fait, on a tout de suite une aisance à parler à l'oral. Il n'y a pas ce gêne de passer devant ses camarades de classe, de parler des choses qui nous sont importantes. Donc rien que ça, je trouve que ça, c'est un astuce qui est important, justement, de pouvoir parler devant des gens sans être gêné, sans avoir le trac, voilà. Et aussi, pareil, comme disait Xavier, c'est vraiment au lieu de former une personne dans certains domaines, on essaie de former une personne
dans
complète.
Son ensemble.
Voilà, voilà, on essaie vraiment d'approfondir la connaissance de l'environnement, les relations humaines, aller à l'encontre de l'autre, sans mettre de frontières, sans mettre de barrières, sans faire de parceler le savoir, en fait.
Et de pas bloquer l'évolution de l'enfant comme dans certains systèmes peut-être il y a tout le temps cette notion de culpabilité, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas, qui va finalement complètement refermer l'enfant, ce qu'on retrouve
sur
peut-être
soi-même,
pas
ouais.
Voilà, là il y a vraiment une émancipation quelque part de l'être humain, de la personne.
Il y a un encouragement permanent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Xavier faisait la remarque, effectivement, dans ces deux systèmes scolaires, il y a un encouragement, un surencouragement permanent. Donc, on est dans une confiance en soi qui est complètement boostée, avec l'effet pervers qu'effectivement, de temps en temps, par contre, on est un petit peu trop boosté.
Ouais, ça crée des égos, peut-être, des fois.
Des fois, ça peut créer des égos ou ça peut créer une confiance en soi qui n'est pas justifiée, parfois.
Ou parfois, ce qui peut aussi arriver, c'est que oui, c'est un système scolaire où on va mettre beaucoup d'emphase sur les éléments de difficulté. Beaucoup de services, beaucoup de professionnels dans les écoles, des psychologues, des orthopédagogues. Bien sûr, souvent, ils sont difficiles d'accès parce qu'ils sont débordés, mais des classes pour les enfants en difficulté, des professeurs souvent qui vont travailler un peu plus fort avec les élèves qui ont des difficultés. Donc, ce qu'on disait tantôt, c'est d'essayer d'un peu tirer vers le haut les élèves qui sont en difficulté. Un des effets, disons, plus pervers de cette façon de faire-là, c'est que les élèves qui sont doués, qui auraient besoin d'être poussés plus vers le haut, souvent sont oubliés. Souvent, il n'y a peut-être pas assez... on va plus se concentrer sur les élèves en difficulté, moins sur les élèves qui méritent, qui auraient besoin, dans le fond, de plus de défis, d'être poussés un peu plus vers l'avant. Et puis aussi... de certains élèves qui sont en difficulté et qui vont vivre tout leur le début de leur éducation avec une aide constante qui va constamment les soutenir et presque des fois faire les choses pour eux. Quand ils vont arriver dans des situations où ils ont besoin d'autonomie, certains de ces élèves-là, tout d'un coup, se retrouvent dans une situation où ils ne sont pas habitués et ils vont avoir de la difficulté à justement exprimer avoir une certaine autonomie. Et c'est des fois, c'est des étudiants qui vont finir par devenir dépendants d'une aide extérieure.
Sarah, peut-être un petit avis aussi là-dessus, sur cet accompagnement qui parfois, des fois, va délaisser ceux qui en auraient aussi besoin et qui il va peut-être manquer d'autonomie.
Au primaire, ça se note plus. Après, au lycée, on avait... le lycée où j'étais, c'était quand même un lycée public, mais on avait des cours qui étaient plus avancés. Donc, par exemple, si on avait un certain niveau en anglais ou en mathématiques, on pouvait passer au niveau au-dessus, en passant par-dessus certaines étapes, certains cours qui étaient justement plus pour renforcer ceux qui arrivaient moins. Mais sinon, en général, c'est vrai que ça a tendance à avoir cet effet pervers où si on est doué, on a un peu de... Des fois, dans les cours, on s'ennuie un petit peu, on n'a pas forcément l'impression d'être poussé à nos capacités entières.
On peut peut-être préciser, en fait, à ce niveau-là, qu'effectivement, l'autonomie est recherchée. C'est-à-dire qu'on va essayer de stimuler l'enfant pour qu'il soit le plus dans la pratique possible, dans l'oralité. On en parlait peut-être tout à l'heure. Et si, au niveau de l'école primaire, tout le monde étudie la même chose. Au fur et à mesure, par contre, du niveau secondaire et du niveau fin secondaire, donc l'équivalent du lycée, petit à petit, les enfants vont choisir et être hyperactifs dans le choix de leur matière, quitte à enseigner, à apprendre, en fait, la matière de leur choix. Donc, en fait, on fonctionne... Ça, c'est vraiment très important parce que c'est une grosse différence avec le système scolaire français. Le système secondaire fonctionne par système de crédit. En fait, les enfants doivent avoir tant de crédits en mathématiques, en anglais, en histoire, en art. Mais après, dans cette catégorie-là, ils choisissent les cours qu'ils veulent et tous les jours, ils prennent, donc ils ont six matières par trimestre et tous les jours, ils ont la même matière, c'est-à-dire de 8h à 9h, du lundi au vendredi, ils étudient la même matière, la matière de leur choix. Ce qui fait qu'ils ne sont jamais aussi dans la classe avec les mêmes élèves, tous les trimestres.
Des rencontres, oui.
Voilà, ils sont toujours dans une classe différente, ce qui facilite à la fois l'autonomie, parce qu'ils ne sont pas toujours avec les mêmes enfants, avec les mêmes ados, parce qu'ils ont choisi leur cours, parce qu'ils ont choisi un cours de cœur. Et parfois, ce sont des cours qui sont complètement, complètement dingues. Sarah me disait qu'elle avait un cours il y avait tellement de cours qui étaient différents, qui étaient absolument extraordinaires.
De biologie sous-marine.
Et celui-là,
biologie
c'était marine. Biologie marine. Et peut-être que Sarah peut l'illustrer, parce que en fait, la pédagogie était vraiment typique de ce qui se passe aux États-Unis.
Voilà, donc on avait en sciences, en première année de lycée, donc c'est l'équivalent de la troisième ici, je crois, le neuvième grade, on devait absolument avoir une science, et puis ça pouvait être la biologie, la chimie, ou alors justement un cours de biologie marine. Et je suis de San Francisco, donc on était vraiment juste sur la côte, et on allait sur le terrain pour recueillir des plantes, pour expliquer un petit peu l'écosystème, les marées, comment ça fonctionnait, et comment chaque organisme, en fait, était participé à l'équilibre de l'écosystème. Donc c'était vraiment, on était sur le terrain. Bon, après, il faisait froid, parce qu'il y avait un vent, et c'était le matin, mais pourtant,
faut y aller,
voilà, c'était une super expérience de vraiment tout apprendre sur le terrain. C'était pas... Après, on avait un petit peu de théorique, peut-être une fois, deux fois par semaine, on ouvrait les livres, voilà, dans la classe, mais sinon, on était vraiment sur le terrain, en plein air, et apprendre vraiment sur l'environnement qui nous entoure, en fait.
Alors là, on rentre dans un cadre très intéressant, c'est de constater les grandes différences entre le système français et l'Amérique du Nord. Donc, on vient un petit peu d'évoquer, voilà, l'aspect pratique des cours, l'aspect très, très varié. Maintenant, je vais me tourner vers Xavier, pour qu'il nous parle un petit peu de la diversité peut-être qu'il peut y avoir dans le système canadien.
Vous voulez dire
la diversité des cours, quelle grande différence peut-il y avoir entre la France et le Canada, par exemple, au niveau scolaire, hein?
C'est sûr que on l'a évoqué, beaucoup de liberté, mais beaucoup de liberté dans le choix des cours que l'on peut prendre. Plus on avance dans le cursus scolaire, plus il y a une diversité forte, plus on choisit nos propres horaires, on choisit nos propres cours. Il y a beaucoup de liberté pour réussir un programme. Il y a certains cours obligatoires et après ça, le reste, ce sont des cours optionnels que l'on choisit généralement. On peut choisir parmi tous les cours possibles. Je peux être en sciences et parmi mes cours optionnels, choisir des cours en sciences humaines ou en astronomie
ou en art,
etc.
Et il y a profusion de cours, profusion de cours.
Oui, parce que théoriquement, j'ai le choix des cours parmi tous les programmes.
C'est des cours à la carte, un petit peu.
Exactement.
Voilà. Il y a une grande diversité. C'est-à-dire qu'en France, on a du mal à imaginer la diversité de cours. Mm-hmm. Au lycée, il y a des cours de business, de cinéma, de nutrition, d'anthropologie, de travail du bois, de...
On avait un cours au lycée qui était les Small Gas Engines, donc on étudiait moi je l'ai jamais fait, mais on étudiait les
moteurs à gaz.
Les moteurs à gaz, voilà. Donc
c'est très spécifique.
Ils avaient un atelier énorme avec plein de grosses machines, c'était excellent.
Non, mais il y a une diversité qu'on peut juste pas imaginer. Moi qui étais enseignante, là pour le coup c'est à l'université,
oui, j'allais le dire, Isabelle Servin a été quand même enseignante à l'université de Stanford.
Oui,
quand même. Donc pendant 8 ans.
Mais ça m'a donné effectivement une expérience. Là c'est vrai que je pourrais témoigner de cette expérience parce qu'elle est énorme. Quand je voyais la diversité des cours qui étaient proposés à Stanford, bon, Stanford c'était quand même très très cher. Hein. J'ai regardé juste avant de venir le coût d'inscription à l'université. J'ai pu y enseigner, j'aurais jamais pu y étudier. Donc que ça soit clair.
Mais ça s'appelle rentrer par la petite porte.
Voilà, j'ai rentré par la petite porte. Donc c'était, là actuellement c'est 10 000 euros par an, sachant qu'il faut minimum 4 ans. Mais derrière il y a les cours pour louer une chambre, ça fait 5 000 euros par an. Plus 5 000 euros de frais de nourriture, on en est à 20 000. Ça fait sur 4 ans 80 000 euros. On le disait tout à l'heure, ça fait 80 000 euros de dette juste en fin de scolarité.
C'est énorme.
Mais pour revenir en fait à la diversité des cours, c'est-à-dire qu'en chaque début de trimestre, il y avait un catalogue de énorme. Cours, ah oui. Mais qui est énorme. C'était oui. C'est du papier à cigarette.
Alors, c'est comme fait... un catalogue de la Redoute et voilà. Les enfants regardent dedans pour voir ce qu'ils veulent enseigner.
Mais,
en fait.
Mais un petit quasiment, peu, c'est ça. Mais c'est des cours de dingue. Il y a des cours de développement personnel. Il y avait un cours, c'était même de sommeil et de rêve. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Et en fait, les élèves devaient. Voilà, c'était l'exploration des rêves. Ils avaient même le droit de dormir pendant le cours. Exceptionnellement.
Il y avait du monde dans ce cours.
pour ce cours, ils avaient droit de dormir pour ce cours, à condition qu'ils racontent leur rêve derrière. Donc, c'est énorme. Mais il y avait voilà, des cours pour apprendre. Il y a un cours, j'ai noté, c'était Life Transitions. La façon d'apprendre à mener sa vie, à faire les transitions de vie.
Parce que comme du coaching. Quoi.
Voilà, comme du coaching, à prendre des décisions dans sa vie. Voilà, je sais
moi,
pas j'a... si vous
avez... moi, j'avais pris un cours de randonnée pédestre. Un cours où l'activité principale, c'est un cours très pratique, évidemment, avec une légère partie théorique, mais les cours, au lieu d'être, disons, une fois par semaine, c'était quelques jours durant le semestre où on allait faire de la randonnée pédestre. Bon, il y avait un petit examen à la fin sur la partie théorique, mais c'était un exemple de cours, disons, un peu atypique, mais que je pouvais prendre en complément de ma formation régulière.
Et ça, c'était à quel âge, ce choix-là?
C'était à 18 ans.
D'accord.
C'était au Québec, c'est dans ce qu'on appelle le cégep.
Alors le cégep, c'est l'équivalent encore de notre lycée. Donc il termine le lycée beaucoup plus tard que chez nous, en fait, 2 ans plus tard que chez nous.
D'accord.
Donc voilà.
Et vous, Sarah, donc c'était ces cours de biologie marine.
Biologie marine, il y avait théâtre, il y avait art plastique, il y avait la sculpture, il y avait où j'ai grandi, c'est assez agricole, donc il y avait des cours d'agriculture, des plantes.
Oui, oui, Sarah nous expliquait même qu'il y avait des cours où elle apprenait à utiliser les machines agricoles,
voilà, en fait. Tracteurs.
Voilà. Elle apprenait. En fait, il y a une diversité de cours. En fait, ce qui était intéressant dans ces systèmes scolaires, parce qu'il y a des points faibles et on va les aborder tout à l'heure. Hein, pas question d'enjoliver la situation. On parle des points positifs comme des points négatifs, mais en tout cas, dans les points positifs, il y a assurément la possibilité de s'explorer. Mais c'est surtout ce qui est aussi, c'est non seulement pendant la scolarité, mais après la scolarité. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, tout au long de la vie, il y a une formation continue qui est très, très importante. Et à chaque moment de la vie, quand on veut changer d'orientation, quand on veut changer de métier, on a la possibilité de suivre des cours à l'université. On en parlait tout à l'heure avec Xavier, peut-être Xavier.
Oui, par exemple, moi j'ai pris une formation pour devenir concepteur de site internet. Mm-hmm. Et j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 4 ans, mais après 4 ans, j'ai décidé de faire un programme universitaire. Je n'avais pas besoin de le faire. J'ai fait un programme universitaire et au Québec, c'est vu comme un avantage, c'est vu comme un plus. Et moi, je vais commencer bientôt un autre programme universitaire dans un domaine qui est totalement différent. Mais ce qu'on discutait tantôt, c'est que au Québec, c'est vu comme un avantage. C'est vu comme une expérience supplémentaire qui va apporter. Donc, les deux programmes, même s'ils sont différents, se complètent l'un l'autre et vont permettre d'avoir, disons, une meilleure expérience.
Est-ce que je peux rajouter par rapport à l'expérience de Xavier, c'est qu'en plus, ses études lui sont payées par le gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement... Il a une bourse d'études qui le prend entièrement en charge au niveau de ses frais scolarité, qui sont assez importants quand même.
Oui.
Et on lui prête de l'argent qu'il ne remboursera qu'à la fin de scolarité pour ses frais personnels.
Oui, exactement. Au Québec, le gouvernement offre des services de prêts et bourses qu'ils offrent au gouvernement, aux étudiants. Donc, il y a des frais à payer qui sont plus importants qu'en France, mais vous avez droit, particulièrement si vous êtes dans une situation qu'on appelle être autonome de ses parents, c'est-à-dire vous êtes dans une situation qui fait en sorte que le gouvernement considère que vos parents n'ont pas à contribuer à vos études. Dans ce cas-ci, même s'il y a des frais universitaires que je dois payer, ils sont remboursés par le gouvernement sous forme de bourse et j'ai également un prêt par le gouvernement qui m'aide à payer, c'est un petit prêt, mais ça m'aide à payer le loyer ou un petit peu de nourriture. C'est pas suffisant, mais ce prêt-là n'a pas à être remboursé tant que les études ne sont pas terminées. Et par la suite, je rembourse tranquillement les études, le prêt.
Alors moi, j'avais juste une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que cette différence justement de cours à la carte, un petit peu comme on vient d'évoquer, que ce soit au Canada ou en Amérique du Nord, aux États-Unis, pardon, pourquoi en France, c'est pas possible ? Est-ce qu'on considère qu'il faut enfermer l'enfant, il faut l'obliger à rentrer dans une voie, sinon il va pas y aller ? Quel est votre avis là-dessus, comme ça, spontanément ?
Enfin, moi, je dirais que déjà, on a quand même, enfin, on a, on a une certaine ouverture, mais aussi on a une journée de travail qui est moins longue. Mm-hmm. Donc après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, on n'est pas très très fort, enfin aux États-Unis en tout cas, on n'est pas très très fort en langue étrangère, notamment en mathématiques, les trucs comme ça, on n'est pas hyper fort. Alors, est-ce que c'est parce que justement on s'appuie trop sur des cours qui sont pas forcément très 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 importants, voilà. Je ne sais pas pourquoi ça.
Xavier, un petit avis sur la question peut-être?
Moi, j'ai un peu de difficulté à répondre à cette question. Je ne connais pas le système français. Donc moi, quand je suis arrivé ici, on m'a expliqué un peu le système français. Pour moi, il y avait des choses qui étaient évidentes et j'apprenais finalement que c'était très différent de la façon dont ça fonctionnait. Donc, je ne crois pas que je peux me prononcer sur la raison pour laquelle en France...
Isabelle, vous avez connu les deux?
Alors moi j'ai connu les deux. C'est vrai qu'en fait, on est très spécialisé, on va en profondeur en France. C'est-à-dire qu'il y a un programme qui est choisi par le gouvernement et finalement, quand vous êtes au primaire, au secondaire ou au lycée, en fait, même à l'université, de toute façon, nous en parlions tout à l'heure avec Sarah. En fait,
oui, d'ailleurs, Sarah qui est à l'université Montpellier 3.
Et maintenant, qui a fait toute sa scolarité aux États-Unis et maintenant à l'université en France, elle constate également qu'en fait, il n'y a aucune quasiment liberté de choix. En fait, il y a un programme qui est très officiel. C'est même une autoroute. Mm-hmm. Tout le monde suit cette grande autoroute. Avec le pendant que finalement, après quelques années, on ne sait pas trop qui on est, ce qu'on veut. On n'a pas eu la possibilité de s'explorer.
D'explorer trop de voies, en fait.
Voilà. Mm-hmm. Par contre, le pendant négatif pour les États-Unis et positif pour nous, c'est qu'en fait, on va quand même plus loin au niveau du sujet, on le maîtrise mieux, mais mm-hmm. on en maîtrise moins. Et surtout des sujets académiques. Mm-hmm. Ce qui dénote particulièrement sur ces systèmes scolaires, c'est qu'on va explorer beaucoup le domaine artistique, culturel, sportif. La vie sportive est prédominante dans les systèmes scolaires nord-américains.
Après, au niveau du lycée, je peux pas dire, mais en tout cas, après, à l'université, il y a quand même le coût. Donc, si on paye 20 000 dollars, 30 000 dollars par an, on s'attend quand même à ce qu'il y ait un petit peu une diversité de cours, qu'on puisse un petit peu puiser
oui,
dans...
Oui, puis une qualité même, peut-être, voilà, aussi, hein, tout voilà. simplement. Donc, et vous, par exemple, à ce que vous constatez, là, parce que vous êtes à Montpellier 3, donc à l'université Paul-Valéry sur Montpellier, en études de sociologie, comment ça se passe quand vous êtes arrivé dans ce campus qui est quand même tout sauf fidèle à ce qu'on peut trouver aux États-Unis? Ça fait un petit choc, quand même,
oui,
peut-être,
c'est
non
sûr, c'est sûr. Encore, Paul-Valéry, c'est un campus assez agréable, mm-hmm. mais en première année, j'étais à Reims, dans le Nord.
Ah oui.
Et là, c'était vraiment, c'était froid, il n'y avait pas de banc pour s'asseoir, c'était pas du tout, on est allé pour les cours, et puis après, sinon, on ne restait pas sur le campus, donc ce qui faisait qu'il n'y avait pas beaucoup de vie. En ce qui concerne la pédagogie, ça m'a beaucoup étonnée d'ailleurs qu'il fallait que je choisisse directement une discipline,
sans avoir vu.
Sans avoir vu un petit peu, peut-être que je ferai l'histoire, un peu de psycho, je ne sais pas, mais j'ai pas de, justement, ça m'a beaucoup étonnée qu'il fallait que je choisisse tout de suite un domaine. Et alors qu'aux États-Unis, mes copines qui sont actuellement à l'université américaine, elles ont 2 ans. En gros, elles doivent choisir à la fin de leur deuxième année un cursus particulier. Donc en fait, elles ont 2 ans d'exploration. Elles peuvent faire des cours dans un petit peu de tout, un peu d'histoire, archéologie.
Ils en profitent à fond en général.
J'imagine bien.
Donc du coup, elles ont des cours superbes que j'aurais pas l'occasion de suivre. Mais et puis voilà. Donc en fin de deuxième année, elles choisissent un cursus.
C'est une particularité au Québec qui est le cégep, mais le cégep, c'est un de ses objectifs, c'est-à-dire qu'après le secondaire, on arrive au cégep, on a 17 ans, et pour les étudiants qui veulent aller faire un parcours universitaire après 2 ans de cégep, le cégep offre des cours de formation assez généraux, pour qu'ensuite, à l'université, on aille se spécialiser. Donc, c'est un peu la même mentalité après le secondaire, on arrive, on choisit un domaine, disons, un peu général, sciences pures, sciences humaines, sciences sociales. Par la suite, on va prendre une spécialité rendue à l'université. Donc, on explore un petit peu, mais on n'a pas à prendre un choix immédiatement.
Anecdotiquement, j'ai du mal à dire, oui, j'aurais dû changer de mot. Hein. j'avais été surprise de constater que les étudiants en médecine aux États-Unis, on peut commencer médecine après son bachelor, donc le bac plus 4, le premier diplôme aux États-Unis. Et il y en avait beaucoup qui avaient un début d'études en histoire, en mathématiques, mm-hmm. pas forcément liées aux sciences, même en littérature. Mm-hmm.
Qui n'avaient pas commencé à faire de la science à 14 ans.
Non, ils étaient vraiment... Ils avaient exploré un diplôme, ils avaient même leur premier diplôme bac plus 4 en histoire, mm-hmm. pour se spécialiser après en médecine.
Donc incroyable. Ça, on l'a bien compris, ça fait tout de même partie de la grande différence entre le système entre l'Amérique du Nord et la France. Est-ce qu'il y a d'autres différences également? Parce que il me semble, Isabelle, que vous m'aviez dit qu'il y en avait 3000 à peu près de différences. Donc on va peut-être pas tout lister.
Il y en avait beaucoup. On voulait explorer, en fait, peut-être dire au moins deux, trois choses encore. Mm-hmm. Le système d'oral, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, mais je pense qu'il faut l'explorer un tout petit peu.
Alors, juste, j'aimerais le signaler, j'ai eu une connaissance qui m'avait dit que l'expression orale était enseignée. On apprenait aux enfants très très jeunes à s'exprimer. Alors, est-ce que c'est vrai?
Complètement.
D'accord.
Alors, David, c'est Sarah qui va peut-être nous en
c'était
parler.
C'est juste la prise de parole
en public.
Voilà. Mais Sarah, donc, comme je disais, en maternelle, on avait un événement, c'était une fois par semaine ou une fois par mois, je ne m'en souviens plus, qui s'appelait Show and Tell. Donc, on ramenait un objet qu'on a de vacances, une photo, une peluche, voilà. Et puis après, on devait présenter devant la classe pourquoi est-ce qu'on avait ramené cet objet et pourquoi il était important pour nous. Donc, dès 4-5 ans, on est directement mis en face de ses camarades de classe. On doit un petit peu exprimer, un petit peu, voilà. Après, au niveau du...
Ouais, j'allais compléter ce que tu disais parce que j'avais observé une classe de seconde, enfin non, toute une matinée du secondaire et j'avais suivi plusieurs classes et première classe, je m'installe au fond de la classe et je vois les élèves qui font des exposés, des conférences. Je dis ah tiens, bon d'accord, ils prennent la parole à l'oral et puis après il y a des échanges avec la classe et puis il se passe rien de plus, très bien. Je vais au deuxième cours, il se passe la même chose. Bon, tiens, je suis un petit peu surprise que le format soit un petit peu comme ça. Je me dis, mais en bonne française, en plus, moi, je venais d'être prof d'économie et gestion en France. Ouais. Et eux, ils travaillent quand? Et en fait, le troisième cours, c'était encore la même chose. Et c'était, là, j'avais dû me mettre à l'évidence qu'en fait, c'était leur façon d'apprendre où les enfants doivent faire des recherches en amont. Ils viennent, ils le présentent avec la classe et puis un échange avec tous les élèves. Et c'est leur façon à eux d'apprendre.
Et est-ce qu'ils montraient des objets ramenés de vacances également?
Bon, après, ça a évolué un petit peu, mais
d'accord.
Voilà.
Ça reste pas jusqu'à 18 ans comme ça.
Mais on avait des cours de public speaking où, voilà, on apprenait
à parler en public.
Voilà, merci. Mm-hmm. À parler en public. Il y avait un club au lycée qui s'appelait Debate Club et on apprenait à débattre, justement. Il y avait le prof qui nous donnait un sujet qui était, voilà, un peu controversé, tout ça. Et on devait, justement, apprendre à prendre la parole dessus, prendre une opinion, présenter son opinion et la défendre.
Mm-hmm. Comme ça, nous savons pourquoi les Américains sont assez exubérants. Les considèrent souvent exubérants, très à l'aise, voilà, à l'oral. Et bien, en fait, depuis qu'ils sont tout petits, ils apprennent, en
comme
fait.
Comme Jim Carrey, par exemple, voilà. qui est resté tout le temps bloqué dans cette méthode-là. Xavier, du côté du Canada, c'est la même chose?
Oui, ça se ressemble beaucoup. Mm-hmm. Moi, tout au long de mon secondaire, les cours de français... plusieurs fois durant le semestre, c'était des présentations, c'était « on doit faire une recherche ». Moi, je me souviens d'un projet que j'ai beaucoup aimé, c'était « on devait choisir une chanson francophone », on la faisait écouter à la classe, et ensuite, on devait expliquer quelles étaient les métaphores qui étaient utilisées dans la chanson, on devait également souligner les aspects qu'on n'avait pas très bien compris de la chanson, et là, la classe devait... il y avait une discussion avec les autres élèves de la classe pour parler de qu'est-ce que chacun des élèves a compris, qu'est-ce que chacun des élèves a plus apprécié ou moins apprécié. Donc, c'était quelque chose d'assez fréquent. Et bien sûr, si on arrive dans les cours de langue, on n'y échappe pas. Là. C'est des présentations orales en anglais ou dans la langue que l'on a choisie, ce qui est généralement ce que les étudiants apprécient le moins. Mais
en France aussi, on doit le faire. Ouais. C'est qu'en cours de langue, d'ailleurs, parce que dans le restant des cours, on nous demande de nous taire. Donc... C'est uniquement là qu'on peut s'exprimer. Il y a également d'autres différences?
Oui, celle qui nous est venue aussi, c'est la notation. Moi, j'étais surprise parce que, justement, j'étais enseignante et bon, ben, on évalue, j'évaluais un peu à la française, un petit peu strict pour moi peut-être, mm-hmm. finalement, alors que là-bas, ils ont des notes, on en a déjà souvent entendu parler, c'est des notes de A à D, avec des éventuellement A+, A à moins, voilà, on a des plus et des moins,
aussi.
Voilà, ou des moins. En fait, il faut savoir que le A, c'est une note standard. C'est-à-dire qu'on n'attend rien, un enseignant n'attend rien de plus ou de moins qu'un A normalement. Si l'élève a correctement appris sa leçon et a bien fait ce qu'il fallait faire, de toute évidence, il a toutes les chances d'avoir un A, d'avoir mm-hmm. la note maximale quasiment. Le A+, c'est vraiment l'excellence, il a fait des choses en plus éventuellement. Mm-hmm. Mais normalement, c'est standard.
C'est pas sur une échelle en fait.
C'est pas sur une échelle comme en France où la moyenne est de 10 sur 20. Non, là, le standard en fait, c'est d'avoir un A, ce qui représenterait presque chez nous 16-17. Voilà, mm-hmm. le normal, c'est d'avoir 16-17. Donc, un élève qui a appris normalement, voilà, aura un A. Et ça, pour nous, c'est...
D'ailleurs, les premières notes que j'ai eues à la fac, je disais, mais non, mais 14, 15, mais c'est pas bien. Et en fait, les gens me disaient, mais non, mais c'est très, très bien, c'est très bien.
Ah oui, ça, c'est... Moi, je
suis content avec...
Donc, si on transpose les notes américaines en notes françaises, effectivement, ils ont des bulletins qui sont extraordinaires, mais qui ne sont pas représentatifs par rapport à notre système de notation. Et parallèlement, quand on est enseignant et qu'on veut noter selon leurs critères, on doit s'adapter et mettre, voilà... On évalue sur, objectivement sur quelque chose de normal. Voilà.
Au Canada, c'est pareil?
Oui, c'est pareil. Je dois dire qu'un élève qui travaille bien et qui a fait tout ce qui avait été demandé, le professeur, lui, va donner effectivement la note de A. L'élève a atteint les objectifs, il a fait exactement ce que je lui avais demandé ou il l'a fait très bien, il va avoir un A. C'est sûr que, généralement, la moyenne, parce que si on inclut les étudiants qui ont... peut-être pas beaucoup travaillé et qui n'ont pas atteint les objectifs. Donc, la moyenne va se situer B ou C dans le pire des cas. Mais disons qu'un élève qui veut bien s'impliquer dans ses études, il vise le A et il va sans doute l'obtenir sans trop de difficultés.
Alors, je dis très souvent Canada, mais est-ce que Québec et Canada fonctionnent de la même manière? Parce qu'on a tendance souvent à les dissocier.
Oui, ici, c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine dissociation. En général, ça fonctionne sensiblement la même chose. La différence majeure, c'est bien sûr le cégep qui est ajouté. Disons, dans le reste du Canada, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aux États-Unis. On est au high school jusqu'à environ 18 ans et ensuite on arrive à l'université. L'université dure 4 ans. Au Québec, l'université dure un an de moins, le secondaire un an de moins. Donc, entre les deux, il y a un programme de 2 ans qui est rajouté. C'est une particularité. Moi, je trouve que c'est un très bon système parce que ça permet une sorte de transition, une période où on peut choisir un peu plus ce que l'on veut, mais sans être nécessairement obligé de choisir de façon précise. Mais pour le reste, ça se déroule sensiblement la même chose, malgré qu'il, culturellement, il y a certains aspects différents. On parlait des fraternités entre nous avant, il n'y a pas ça au Québec. Tandis que c'est très populaire aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un aspect beaucoup plus communautaire qui est un petit peu moins présent au Québec. Le Québec, je dirais, sur certains aspects, se situe beaucoup entre la France et les États-Unis.
On va maintenant parler des points négatifs, puisqu'il faut qu'il y en ait les points négatifs de ce système scolaire. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà?
Le coût déjà.
Oui.
Le coût.
D'accord.
Assurément, les frais de scolarité, quand on sort d'une très bonne université aux États-Unis, on a 100 000 $ de dette.
À 25 ans,
on est criblé de dettes.
Ça fait un sacré passif et ça veut dire...
Mais on est éduqué.
On est bien éduqué.
Et on a pu choisir de la biologie marine et des randonnées pédestres.
Bon, et on a quand même toutes les chances aussi d'obtenir un emploi. Parce que plus vous avez un diplôme, vous êtes issu d'une université prestigieuse, plus en fait, quelque part, vous avez un diplôme reconnu et donc vous avez toutes les chances d'obtenir, d'être bien payé par la suite. Mais c'est vrai que je connaissais beaucoup de personnes qui cumulaient 2 voire 3 emplois pour pouvoir rembourser leurs dettes. Et Sarah nous expliquait tout à l'heure, mais je vais lui laisser la parole par rapport à sa sœur.
Ah oui, ma sœur, elle reprend ses études en doctorat. Et puis, on discutait au téléphone l'autre jour. Et puis, elle me disait, oui, bon, j'ai besoin de choisir entre ces deux écoles. Ils m'ont donné 20 000 $ de bourse. Oui, ils m'ont donné 18 000. Mais bon, en gros, j'aurais 100 000 à rembourser. Alors, je l'ai regardé. Je dis, mais c'est impossible. 100 000 $ d'emprunt plus ses intérêts, etc. C'est vraiment... Bon, après, c'est vrai qu'il y a des bourses. Justement, on parlait des bourses sur mérite. Mais c'est vrai que c'est très, très cher. Alors après, quand je dis ici, voilà, je paye 350 € mes frais d'inscription pour la fac, c'est royal.
Ça paraît dérisoire.
Ouais. Ça relativise les choses.
Ouais, ouais, exactement. Voilà. Ouais. Bon, il n'y a pas de bande dans toutes les universités.
Bon, après, elle ne coûte pas toujours aussi cher. Et Xavier nous expliquait.
Au Québec, c'est un petit peu. Au Canada, pardon, c'est moins cher. Les frais vont varier d'une province à l'autre, généralement. Pour une année complète, je dirais entre 2 000 et 5 000 €. Je dirais. Comme je disais tantôt, souvent il va y avoir des programmes gouvernementaux qui vont venir aider les étudiants avec ça. Mais ça reste, présentement, surtout l'année passée, ça reste un sujet très controversé, où il y a beaucoup de gens qui disent que non, on ne devrait pas avoir à débourser autant d'argent pour aller à l'université. Donc, il y a beaucoup de discussions en ce moment. Je peux parler du Québec parce que je viens de là. En ce moment, justement sur les frais de scolarité, est-ce que l'on devrait payer ou pas? Donc, il y a deux camps qui s'affrontent. D'un côté, on dit qu'il faut augmenter les frais. De l'autre côté, on dit qu'il faut les réduire. Donc,
Et vous, personnellement? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, personnellement, je pense qu'il faut viser une sorte de gratuité scolaire.
Pour que ça soit accessible à tout le
monde. Moi, par contre, mon opinion, c'est de faire attention non plus de ne pas... ce qui est un peu une pratique au Québec. Au Québec, comme je disais tantôt, essayer de valoriser les gens en difficulté. Malheureusement, un effet pervers, c'est que parfois, on va essayer de laisser passer tout le monde. Donc... ça rabaisse un peu le niveau. On va descendre les critères pour un peu avoir plus de gens qui vont réussir leur cours. Donc, moi, je crois qu'il y a un équilibre entre les deux. Mais c'est sûr que si on parle seulement d'argent, moi, je crois personnellement que, oui, un objectif de gratuité scolaire est selon moi, la meilleure voie à suivre. Mais en fait, je crois que tout le monde est pour la gratuité scolaire. Mais c'est juste que certaines personnes considèrent que... dans la situation actuelle, ce n'est peut-être pas le meilleur choix.
Et puis c'est un business aussi des fois, tout simplement.
Mais c'est-à-dire qu'il faut avoir des moyens. C'est vrai que dans l'université où j'étais, elle était excessivement chère, mais il y avait pléthore de cours, il y avait un nombre incroyable de prix Nobel en tant qu'enseignant. Non, mais c'était le campus, on a du mal à imaginer la beauté des campus américains. Ce sont des lieux magnifiques qui ont leurs propres postes, magasins, un nombre incroyable de librairies, bibliothèques, pardon. C'est vraiment des endroits magnifiques avec un nombre de cours incroyable et des gens exceptionnels pour enseigner.
Et qui sont visités d'ailleurs, il y a des tours organisés de visite, ce qu'on ne fera pas sur le campus par exemple le Montpellier 3. On n'emmènera peut-être pas un petit train de touristes.
Ouais, surtout Sanford, elle est magnifique cette école, il y a les grandes pelouses, il y a une chapelle, c'est absolument magnifique. Il y en a qui se marient d'ailleurs à Sanford.
C'est vrai, il y en a beaucoup parce que c'est une vieille église et effectivement c'est un cadre magnifique.
D'autres points négatifs peut-être sur ce système qui saute aux yeux? Directement,
moi,
comme
le
ça.
Point négatif, j'en ai parlé tout tantôt. C'était bien sûr la survalorisation ou le focus peut-être trop important sur les élèves en difficulté qui délaissent des élèves un peu plus qui auraient besoin d'être poussés vers le haut, qui ont beaucoup de talent. Le manque de compétitivité aussi beaucoup au Québec, que certains trouvent qu'on ne valorise peut-être pas assez les gens qui sont très doués.
À potentiel.
Voilà, exactement.
Qui pourraient le développer trois fois plus, en fait.
Hein, exactement. S'ils étaient poussés, il y a moins de ressources pour eux. Et puis, oui, je crois que c'est ça, de mon côté.
Ouais, probablement le fait qu'effectivement, comme on ne va pas en profondeur, tout le monde apprend un petit peu quelque chose de
oui,
tout.
Il y a peut-être avec tout ce choix.
Alors c'est... Quand on y est, franchement, d'un point de vue personnel, on a l'impression de se découvrir et de se chercher et de se valoriser finalement. Parce que, en fait, c'est ce qu'on avait vu dans nos autres cafés, que ce soit en Océanie ou en Europe du Nord. C'est qu'en fait, quand on a une multitude comme ça d'activités à disposition, ça veut dire qu'on peut toujours se valoriser dans soit de l'artistique, soit dans de l'académique, soit dans du sportif. Donc, on peut toujours booster sa confiance en soi parce qu'on sait qu'il y a des domaines, on sait explorer suffisamment pour se trouver professionnellement et pour se trouver humainement. Donc, ça, c'est quand même extrêmement positif. Maintenant, la difficulté, c'est qu'on n'a effectivement rien approfondi. On n'est pas toujours allé...
Le risque de tout toucher en surface, quoi, finalement.
Voilà.
Parfois, c'est le
défaut, l'inconvénient.
Sarah, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ça?
Ah, oh, mais il est parfait, le système
Elle a beaucoup apprécié le système américain. Ce que j'avais noté aussi, qui m'avait surprise, c'était, en tout cas à l'université où j'étais, il y avait quand même un clivage assez marqué au niveau des communautés. C'est-à-dire que les hispanos étaient entre eux, les blancs étaient entre eux, les noirs étaient entre eux, les indiens étaient entre eux, et même en minorité ethnique, c'est-à-dire les indiens Sioux ne allaient pas avec les indiens Cheyennes, j'avais toutes les communautés. Donc j'avais trouvé qu'il y avait vraiment un clivage par communauté. C'était très très communautaire. Et tout à l'heure, ça a été évoqué par Xavier, cette idée que aux États-Unis, il y a beaucoup de confréries. On appartient au niveau de l'enseignement supérieur au Alpha, Kappa. Mais il y a vraiment, même au niveau du secondaire, on est surtout en petit groupe, en petit clan. Et c'est quand même assez marqué dans ces deux systèmes scolaires.
Un dernier mot pour finir cette émission, donc sur le système scolaire d'Amérique du Nord, Xavier, peut-être.
Moi, je dois dire que l'aspect où on donne la chance à tout le monde, où on met en valeur les forces de chacun, même si la personne a peut-être un peu plus de difficultés, moi, je trouve que c'est un point intéressant. C'est un point que moi, j'aime beaucoup dans le système canadien, où il y a toute une offre qui est donnée aux élèves en difficulté. Tout le monde a une chance d'y arriver et on ne laisse pas tomber. Ça laisse certaines personnes de côté, mais je crois que c'est quand même une bonne direction à suivre, moi, je trouve.
Mm-hmm. Et ils sont dans les 10 premiers au niveau de l'enquête PISA, ne l'oublions pas.
Tout de même, félicitations. Merci. Sarah, un dernier mot par rapport à tout
ça? Je trouve que justement, le fait de vraiment pousser une créativité, d'avoir une ouverture sur le monde, tout ça, c'est quelque chose à vraiment maintenir et retenir et voire transmettre dans le système français où il n'est pas tellement présent finalement, et justement vraiment avoir une pluridisciplinarité dans le système scolaire, et en plus avoir, comme Isabelle disait, qui permet une certaine valorisation, qui permet une mise en confiance, que ça soit artistique, sportive, musicale, etc.
Donc une grande richesse.
Voilà. Ouverture sur le monde, je ne sais pas, parce qu'ils ne sont pas très ouverts quand même en dehors des États-Unis, sur l'extérieur du monde, mais effectivement une grande diversité d'activités, et encore une fois, pas simplement académique. Moi, je voulais juste rajouter une chose qui m'avait beaucoup marquée, c'est qu'en fait, à la fin du trimestre, au niveau de l'enseignement supérieur, tous les élèves, vos étudiants plutôt, vous évaluent leurs enseignants sur une trentaine de points. J'ai été évaluée par tous mes élèves.
Et alors
sur une trentaine de points. J'y suis restée parce qu'au début, j'avais été recrutée pour un trimestre qui est devenu deux trimestres, puis une année.
Et ils ont voulu vous garder.
Et j'y suis restée 7 ans. Donc finalement, la suite était bonne. Mais en tout cas, c'était très intéressant parce que j'avais leur retour objectif et ils ne m'ont gardée que sur ces critères-là.
D'accord, c'était une très bonne chose. Et pour la cuisine aussi.
pour les crêpes.
Merci infiniment à tous les trois d'avoir été présents pour cette émission sur le système scolaire en Amérique du Nord. Donc Xavier Frenette, qui est en vacances ici, qui nous fait le plaisir de passer nous voir. Travailleur autonome, je le rappelle, concepteur de site internet. On vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Sarah Jackson également, étudiante en sociologie à Montpellier. En combien d'années pour l'instant, c'est la première?
Là, je viens de finir ma troisième année.
Sa troisième année.
Je vais me voir demain.
Oula, attention, alors là, c'est échéance. Native américaine et qui a fait toute sa scolarité aux États-Unis. Merci Sarah d'avoir été avec nous. Et Isabelle, encore merci.
Juste rajouter que le prochain café,
oui,
c'est le...
Oui, j'allais vous lancer là-dessus. Parce qu'il y en a un qui arrive, il me semble que vous allez au Moyen-Orient.
On part au Moyen-Orient, enfin on va essayer, le Moyen-Orient va essayer de venir jusqu'à nous. Donc ça sera le 23 mai à l'espace Martin Luther King à 20h. Et j'en profite pour faire un appel à témoignage. Contrairement au café précédent, on a toutes les difficultés du monde à trouver des personnes qui accepteraient de témoigner de ces pays-là. Donc si vous êtes originaire, si vous avez fait votre scolarité ou enseigné dans ces pays-là, merci de nous contacter au plus vite.
Oui, vous pouvez donner peut-être une adresse du site internet, c'est www.école du monde.
Alors maintenant nous avons changé.
Ça a changé, j'ai vu qu'il y avait un nouveau site tout récent.
Nous avons un nouveau site, voilà, exactement, tout neuf, tout beau, qui s'appelle écolepublic.fr, école et public au pluriel.
Voilà. Mais en tapant École du Monde, il me semble qu'on vous
ça
trouve
marche toujours.
Tout de même
voilà,
encore.
Voilà, écoledumonde.com marche toujours.
Voilà, vous pouvez, si jamais vous avez enseigné donc en Moyen-Orient, vous pouvez contacter Isabelle Servan pour assister à ce café pédagogique qui aura lieu, on va le rappeler.
Le 23 mai à 20h à l'espace Martin Luther King, l'entrée est libre et ouverte à tous. Et on vous accueille avec un petit buffet.
En plus.
En plus.
Et c'est Isabelle qui fait la cuisine. Merci à tous les trois et à très bientôt.
Merci.